Brice Makosso, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est le jour des obsèques du pape François. Est-ce que vous pensez que cette cérémonie sera beaucoup suivie au Congo et au-delà, en Afrique?
Absolument. Ici, au Congo, elle va être suivie, puisque dans mon entourage, le milieu des jeunes de notre église, nombreux ont dit qu'ils vont être à la maison devant la télévision.
Quel héritage va laisser le pape François au monde et surtout au continent africain?
Écoutez, pour nous en Afrique, en nous gardant l'image de ce pasteur de la paix, le pèlerin de la paix, de la réconciliation et de la lutte contre les injustices.
Réconciliation et paix, est-ce que ce n'est pas un message récurrent chez tous les papes?
Oui, c'est un message récurrent, mais je crois que au-delà, déjà par la symbolique, il a choisi le nom de François, François d'Assise, qui était ce grand saint de la paix. Et nous avons vu que lui, il est allé au-delà. Par exemple, en RCA, il est venu au moment où tout le monde craignait pour sa sécurité. Il est allé à l'est de la RDC au moment où tout le monde, évidemment, craignait pour la sécurité.
Il n'est pas allé à l'est de la RDC.
Oui, désolé, il a plutôt écouté les victimes de la RDC, des souffrances de la RDC. Et nous avons aussi vu ce geste qui restera très fort au moment avec les leaders soudanais, en leur suppliant de faire la paix et en baisant leurs pieds. Donc c'est quelque chose de très fort qui restera ici en Afrique.
Et sur le plan de la démocratie, est-ce qu'il a fait mieux que ses prédécesseurs?
Sur le plan de la démocratie, en parlant de paix, il n'a pas abordé comme tel les questions de démocratie, les questions d'alternance, mais il a beaucoup appelé également sur les questions de liberté, les questions de respect de la personne humaine, les questions de protection des plus pauvres, des plus faibles.
Vous avez également évoqué la thématique de la lutte contre l'exploitation.
Notamment en RDC, nous garderons ces mots très forts que l'Afrique n'est pas une mine à exploiter. Il a bien fait le lien entre le conflit en RDC et l'exploitation des ressources naturelles. Mais aussi dans l'encyclique Laudato Si, où il a fait le lien, évidemment, entre les changements climatiques et l'exploitation à outrance des ressources naturelles avec toutes les questions liées à la pollution.
À ce propos, justement, le pape François avait un message fort sur l'écologie. Est-ce que cela a eu un impact sur ce plan, dans votre environnement, par exemple, ou dans la région?
Oui, au niveau de toute l'Église, on dit de lui qu'il est le pape de l'écologie. Tous les papes ont parlé d'environnement, mais lui, il a systématisé le discours de l'Église sur les changements climatiques. Et nous avons vu, pas seulement ici en Afrique, mais dans l'Église universelle, la structuration de toutes les commissions, de toutes les structures d'Église qui travaillent sur la question du changement climatique. Il y a eu tout un réseau des organisations catholiques qui travaillent sur les changements climatiques qui s'est créé. Ici, en Afrique centrale, on parlera du REBAC, le réseau du bassin de l'Afrique centrale, le bassin du Congo, qui est un réseau qui s'est constitué, qui travaille sur les questions du changement climatique. On trouve ces réseaux bien organisés, évidemment, au niveau des trois bassins forestiers mondiaux. Il y a le réseau de l'Amazonie, mais aussi le réseau de l'Asie-Pacifique.
L'un des moments forts du pontificat de François, c'est lorsqu'il publie en décembre 2023 une déclaration qui prévoit la possibilité pour les prêtres de bénir des couples homosexuels, ce qui avait alors choqué l'Église et les croyants dans de nombreux pays africains. Est-ce que cela n'a pas signé quelque part le divorce d'avec une Église africaine très traditionnaliste?
Ça n'a pas signé de divorce, puisque l'Église d'Afrique s'est exprimée de manière collégiale pour dire que cela n'entrait pas du tout dans la culture africaine et le pape a entendu ce message et le pape a accepté cette différence de point de vue de l'Église d'Afrique. Il n'y a donc pas eu de difficultés à ce niveau-là. Le pape a très bien compris la prise de position de l'Église d'Afrique à ce sujet.
Mais les croyants catholiques en parlent toujours jusqu'à aujourd'hui.
Oui, ils en parlent, mais ça n'a pas coupé le lien entre le Saint-Père et les chrétiens catholiques d'Afrique. Les chrétiens catholiques d'Afrique sont restés unis au Saint-Père. Et d'ailleurs, on en parle moins depuis le décès, on parle moins de l'épisode de Fiducia, de l'héritage que nous avons gardé de ce pape, homme de paix, homme de l'écologie, homme de la réconciliation.
Monsieur Makosso, contrairement à ce qu'on voit dans les pays catholiques européens où les vocations pour devenir prêtre se sont amenuisées au fil des années, c'est le contraire qui se passe en Afrique. Comment pouvez-vous l'expliquer?
L'Afrique, je pense, avait déjà une forte croyance avant même la pénétration du christianisme en audio traditionnel. Mais aujourd'hui, l'Afrique est un continent jeune, face évidemment à toutes les difficultés. On est toujours à la recherche de cet être spirituel, de cette consolation spirituelle. Et les Africains sont évidemment très croyants. Et ce qui fait que nous avons aujourd'hui besoin de nos propres pasteurs pour évangéliser l'Afrique. Hier, nous avons connu des pasteurs venant de l'Europe, mais aujourd'hui, l'Afrique est en train d'avoir ses propres pasteurs, ses propres prêtres, ses propres évêques pour pouvoir évangéliser notre continent.
Et au-delà même jusqu'en Europe.
Exactement. Nous voyons également des prêtres Fidei Donum qui aujourd'hui sont en Europe, non pas seulement pour des besoins d'études, mais aussi pour évangéliser, apporter le message de Dieu aux Européens.
Au-delà de cette question de spiritualité, hein, certains spécialistes parlent d'un attrait qui serait dicté par d'autres facteurs terre à terre. Ils disent que c'est le meilleur moyen, par exemple, d'avoir des études gratuitement pour des enfants issus de familles pauvres.
Non, je crois que c'est un argumentaire rébarbatif. Non, il y a des vraies vocations en Afrique, mais il y a aussi ce souci pour les Africains de vivre l'évangile avec nos propres pasteurs. Donc, je crois que l'argument d'avoir des études qui coûtent moins cher ou gratuites, c'est un argument rébarbatif.
Partout en Europe ou en Amérique, l'Église catholique est sur la sellette à cause de nombreux scandales sur des affaires d'abus sexuels. L'Afrique, elle, semble épargnée jusqu'ici. Est-ce que parce qu'elle a été épargnée par ce genre de dérive, ou c'est la loi du silence qui prévaut selon vous?
Je ne saurais vous dire si c'est la loi du silence, mais il faudrait avouer que culturellement, nous n'exposons pas nos dérives sur la place publique. Ici, chez nous, on dit que le linge sale se lave en famille. Il y a certainement, je ne peux pas écarter qu'il y ait eu des abus dans notre Église sur ce genre de thématique, mais que certainement ces abus ont dû être réglés selon la coutume, les traditions africaines.
Le conclave des cardinaux va bientôt élire le successeur de François. Est-ce que l'heure d'un pape africain sonnait comme certains semblent le croire?
Mais écoutez, l'Afrique a des cardinaux qui sont capables évidemment d'assumer ces hautes fonctions. Mais le plus important n'est pas de dire que c'est l'heure de l'Afrique, mais c'est plutôt de trouver des candidats capables de conduire l'unité de l'Église, de conduire les fidèles du monde entier vers l'amour de Dieu, vers le dessein de l'humanité.
Qui peut incarner le mieux, hein, cette unité? Est-ce un pape réformiste ou un pape conservateur?
Je ne pense pas qu'il faut parler de réforme ou de conservatisme. Il faudrait plutôt regarder quelles sont les joies ou les difficultés de l'Évangile aujourd'hui, de notre Église aujourd'hui, les joies ou les difficultés du monde aujourd'hui. On veut un pape qui tienne compte de nos joies et de nos difficultés, qui en parle. On a vu que François a beaucoup parlé de la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup d'exclus, il y a de l'égoïsme qui monte, et donc on veut un pape qui tienne compte, évidemment, des problèmes actuels de notre société, les problèmes actuels de notre Église.
Et quels sont ces problèmes selon vous?
Mais écoutez, pour nous, l'Afrique, nous avons toujours ces problèmes de pauvreté, nous avons toujours ces problèmes d'injustice, nous avons toujours ces problèmes de conflits, de guerres. avec des armes fabriquées en Occident. Voilà, donc ça, ce sont les vrais sujets qui nous intéressent, comment l'Afrique peut au mieux profiter de ses ressources naturelles. On n'a pas besoin d'armes, en fait, pour le développement de l'Afrique.
Et si je reviens à la question du pape, le pape africain, est-ce qu'un Africain a une chance aujourd'hui d'être élu?
Alors, moi, je remets cela comme étant une question du conclave. Ce sont les cardinaux, mais aussi l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'élection d'un pape, n'est pas seulement une affaire d'homme, c'est aussi une affaire de l'Esprit qui souffle au sein du conclave. Et donc, l'Esprit Saint soufflera au sein du conclave pour donner à notre Église un pasteur digne de pouvoir la conduire.
Brice Makosso, merci.
Je vous en prie.